en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous sur un sujet qui est extrêmement important pour la France, puisque nous sommes dans une situation difficile depuis très nombreuses années. J'ai commencé mes études d'économie il y a maintenant 3 décennies, parce que le chômage commençait à augmenter. Je me suis intéressé au marché du travail parce que le chômage avait continué à augmenter. Et depuis que je travaille sur ce sujet, le chômage n'a pas franchement baissé en France. Il est resté à un niveau élevé. Maintenant, depuis pratiquement 3 décennies, depuis 35 ans, le chômage n'est pas passé sous la barre des 7% en France. Déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années, plus maintenant 25 ans, l'Allemagne était une sorte d'exemple pour la France. L'Allemagne s'est réunifiée. Après la réunification, l'Allemagne a eu de bien moins bonnes performances économiques sur le marché du travail. Mais, vous le savez, l'Allemagne a réalisé de très importantes réformes sur le marché du travail, dont je vous dirai quelques mots, qui ont conduit à une baisse drastique du chômage. Aujourd'hui, plus exactement en octobre 2016, le taux de chômage était à 4,1% en Allemagne, alors qu'il est chez nous autour de 9,5% et qu'il stagne à ce niveau depuis plusieurs mois. Le Royaume-Uni aussi est aujourd'hui un taux de chômage très faible, sous les 5%, de l'ordre de 4,8%. Et le Royaume-Uni, depuis de longues années, a entrepris des réformes importantes sur le marché du travail, réformes qui ont une certaine cohérence, qui ont été suscitées par le fort taux de chômage au début des années 80 en Allemagne, au Royaume-Uni. Il y a eu toute une suite de réformes qui ont permis de réduire le chômage de manière structurelle. Et aujourd'hui, deux de nos principaux partenaires commerciaux, donc l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni, ont des taux de chômage qui sont inférieurs de moitié à notre taux de chômage. Alors, ce qui est frappant quand on analyse la trajectoire de ces pays, c'est le fait que la philosophie qui a animé les réformes de ces pays est très différente de la nôtre. Chez nous, nous sommes hantés par une vision très malthusienne du fonctionnement du marché du travail, qui a inspiré des politiques telles que la réduction de temps de travail, le retrait des seniors du marché du travail, le fait de retarder l'entrée des jeunes sur le marché du travail, ou encore la création d'emplois publics pour essayer de compenser l'insuffisance de création d'emplois dans le secteur privé. Dans ces pays, ce sont des logiques tout à fait différentes qui ont permis de réduire le chômage. Ce sont des logiques qui consistent à accroître, au contraire, l'offre de travail, à susciter la demande de travail et aussi et surtout à assurer une cohérence de la formation des salaires qui permettent d'équilibrer, en fin de compte, l'offre et la demande de travail. Ces trois leviers sont très importants et j'aimerais l'illustrer dans cette brève présentation de la situation française au regard des situations allemandes et des situations du Royaume-Uni pour montrer que la France a aussi les moyens, finalement, de réaliser des réformes qui permettraient de réduire le taux de chômage à un niveau faible, aussi faible que celui de nos voisins. Contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans certains débats préélectoraux, la fin du travail n'est pas pour demain. L'exemple de nos voisins semble le montrer, puisque le taux de chômage a baissé à des niveaux qui sont très faibles dans ces pays. Il n'y a aucun indice de la fin du travail dans ces pays. Il n'y a pas de raison que le travail disparaisse. Bien au contraire, ces marchés du travail chez nos voisins sont tendus. La situation chez nous est très différente, mais ce n'est pas inéluctable. Il n'y a aucune raison que ce soit inéluctable. Et je crois qu'il y a eu de très nombreux diagnostics réalisés sur le marché du travail français qui nous indiquent les réformes qu'il convient de mener pour s'approcher de la situation qui prévaut dans ces pays. Et je vais essayer de vous les présenter dans la deuxième partie de cet exposé, après vous avoir rappelé brièvement la stratégie qu'ont suivi nos deux pays voisins, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Je commencerai donc par l'Allemagne. qui, comme j'ai dit, a eu d'importantes difficultés économiques consécutives à la réunification. Il y a une forte montée du chômage qui était de l'ordre de 5%, 5,5% au lendemain de la réunification, en 90-91, et qui a augmenté régulièrement jusqu'à 11,3% en 2005. Vous savez, c'est le chancelier allemand, Gerhard Schröder, a réalisé d'importantes réformes qui ont d'ailleurs potentiellement lui ont coûté cher en termes politiques. Et ces réformes ont permis de modifier la trajectoire du taux de chômage en Allemagne. Ces réformes s'appuient essentiellement sur trois axes, trois points. Premièrement, une réforme drastique du service public de l'emploi, avec une activation des dépenses pour les demandeurs d'emploi et des exigences beaucoup plus importantes sur l'acceptation d'emploi, sur la nécessité d'accepter des formations pour pouvoir percevoir l'assurance chômage. Le deuxième axe, c'est une réforme très profonde de l'assurance chômage en soi, des indemnisations chômage, des minima sociaux, avec un raccourcissement de la durée potentielle d'indemnisation chômage et aussi une baisse du niveau de l'allocation chômage pour les chômeurs de longue durée. Le troisième axe est une libéralisation très importante des contrats à durée déterminée, de l'intérim et une limitation de la protection de l'emploi pour les petites entreprises qui a permis d'activer la demande de travail. Alors, ces réformes A sont qui ont été réalisées dans les années 2003-2005, sont un des deux axes importants des changements qui ont eu lieu sur le marché du travail en Allemagne. Le second axe concerne la formation des salaires. On en parle moins souvent, mais il y a eu un bouleversement de la manière dont les salaires se sont formés en Allemagne à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui correspond à une très forte décentralisation des conventions collectives. Il y a eu un mouvement de centralisation des négociations collectives grâce à des procédures d'opt-out, les entreprises pouvant sortir des conventions collectives de branche pour pouvoir négocier au niveau de l'entreprise des accords concernant l'emploi, les salaires ou les conditions de travail Ce mouvement était très important et il a conduit à une très forte flexibilité des salaires à la baisse durant toute la décennie 2000, qui a permis à l'Allemagne de regagner beaucoup de compétitivité sur les marchés étrangers, mais aussi de créer beaucoup d'emplois qui sont plutôt tournés vers une demande intérieure, notamment dans le secteur des services, des emplois à bas salaire, souvent des emplois à temps partiel, qui ont suscité l'entrée sur le marché du travail de salariés peu qualifiés, de femmes aussi, d'immigrés, qui étaient exclus de l'emploi jusqu'à cette période, avant la mise en œuvre de cette très grande flexibilisation des salaires. Alors évidemment, une des contreparties de cette politique est l'augmentation des inégalités de salaire. Ce point a été beaucoup souligné en France. Vous avez une question ? Non, pardon. Ce point a été beaucoup souligné en France, dans la mesure où on insiste sur le fait qu'en France, que les réformes qui ont été menées en Allemagne ont conduit à des inégalités qui seraient beaucoup plus importantes qu'en France. Alors, il est vrai que les inégalités de salaire sont plus importantes qu'en France, d'autant qu'en France, les inégalités de salaire n'ont pas augmenté depuis 4 décennies, elles se sont même réduites. Mais ce qui est important, ce sont les inégalités de revenus après impôts et transferts. Et de ce point de vue, on s'aperçoit que la situation ne s'est pas plus dégradée en ce qui concerne l'évolution des inégalités en Allemagne qu'en France, de ce point de vue, dans cette dimension. Par exemple, l'indice de Gini, si on compare l'indice de Gini des inégalités, son évolution de 2003 à 2013, en Allemagne, il est passé de 2,82 à 2,92. En France, il est parti du même niveau en 2003, 2,82, pour terminer à 2,94, légèrement au-dessus. Donc en fait, cette idée selon laquelle l'Allemagne aurait réaliser des réformes au prix d'une explosion des inégalités ne se trouve pas dans les données. Nous ne voyons pas ce constat dans les données. Les données disent finalement, envoient un message contraire, disent le contraire. L'Allemagne a réussi la création à créer beaucoup d'emplois, souvent des emplois très mal payés, effectivement, mais en ayant un système d'impôts et de transferts qui permettent de compenser cette augmentation des inégalités de revenus à un niveau qui correspond au niveau d'inégalité que nous connaissons en France. Donc, ce point de vue, l'Allemagne a pu créé des emplois, beaucoup plus d'emplois que la France sur cette période, avec une augmentation du PIB par habitant qui est correspondante, sans qu'il y ait une augmentation des inégalités plus importante que celle qu'on a pu observer en France sur cette période. Alors, la situation du Royaume-Uni est assez différente en ce qui concerne les inégalités, mais le Royaume-Uni s'est appuyé sur la même logique que l'Allemagne pour faire baisser le chômage. Stimulation de l'offre, stimulation de la demande et action aussi sur la formation des salaires. Alors avant la récession de 2008, la situation du marché du travail au Royaume-Uni était plutôt bonne. Le taux de chômage était autour de 5%. Le taux de chômage a augmenté de 3 points rapidement à l'issue de la crise financière de 2008, notamment parce que le Royaume-Uni était très exposé. Il a une chute du PIB très importante. Le marché du travail étant relativement flexible au Royaume-Uni, il y a une augmentation du chômage qui était relativement limitée par rapport à la chute du PIB, mais le taux de chômage est resté sur un plateau de l'ordre de 8% pendant 4 ans, et des réformes ont été mises en œuvre à partir de 2011 pour essayer de faire baisser le chômage dans un contexte dans lequel il y avait des politiques de restrictions budgétaires à partir de 2011, après l'arrivée des conservateurs au gouvernement. Alors, en fait, quand on regarde l'évolution du Royaume-Uni, on s'aperçoit que le Royaume-Uni a essayé de travailler sur les aspects structurels du marché du travail, de faire évoluer les aspects structurels du marché du travail depuis le début des années 80, dans la mesure où, dans les années 80, le Royaume-Uni avait un taux de chômage particulièrement élevé. La première vague a été mise en œuvre de réformes, a été mise en œuvre par Margaret Thatcher, qui a agi sur deux leviers. Premier levier, la réduction du pouvoir syndical, notamment en modifiant les conditions dans lesquelles des grèves pouvaient être mises en œuvre. Ceci a conduit à une très forte chute du taux de syndicalisation et un poids des syndicats beaucoup moins important dans la formation des salaires au Royaume-Uni. Le deuxième levier était une modification de l'assurance chômage, avec une forte activation aussi des dépenses pour les chômeurs, avec un suivi beaucoup plus serré des demandeurs d'emploi qui perçoivent l'assurance chômage. L'arrivée des travaillistes en 97 au gouvernement n'a pas changé fondamentalement la politique sur le marché du travail. Il y avait... Tony Blair n'a pas touché aux réformes qui avaient concerné les syndicats, sur le fond. Et il a poursuivi la politique active de dépenses en faveur des chômeurs à travers des programmes dont le nom est à présent bien connu. Ce sont des programmes de ce qu'on appelle les New Deal, qui étaient des programmes destinés, ciblés, plus particulièrement sur des personnes qui étaient éloignées du marché du travail, des jeunes, des seniors, des parents isolés et des personnes handicapées. Et donc ça, c'est un axe très important des politiques d'emploi et des politiques de marché du travail au Royaume-Uni, cette idée selon laquelle il faut activer les dépenses en faveur des chômeurs avec des niveaux relativement faibles d'indemnisation chômage. Le deuxième axe, qui est peut-être plus original, c'est cette idée selon laquelle il est indispensable de rendre le travail payant. C'est ce slogan « Making work pay » qui a conduit à des politiques assez originales, en fin de compte, puisque en 98 a été institué au Royaume-Uni un salaire minimum, justement, pour rendre le travail payant, pour créer un écart suffisamment important entre les minima sociaux et le salaire que l'on peut obtenir sur le marché du travail, de manière à créer des incitations à travailler. Et ceci est accompagné de crédits d'impôt qui sont ciblés, notamment, sur les parents isolés et les familles pauvres, donc qui sont des crédits d'impôt, et qui produisent un système de crédit d'impôt et de transfert qui permet de cibler les transferts vers des ménages pauvres, notamment des parents isolés, tout en continuant à donner des incitations à travailler. Alors, les réformes qui ont été mises en œuvre en 2011 s'inscrivent dans cette logique d'ensemble. Il y a eu quatre axes de réformes importantes mises en œuvre à la suite de 2011, de la crise de 2008, pour essayer de relancer le marché du travail. Il y a eu tout d'abord une action importante sur les contrats de travail, avec une augmentation de la durée de l'ancienneté minimale pour pouvoir contester un licenciement, avec aussi des coûts à payer pour pouvoir poursuivre son employeur lorsqu'il y avait un licenciement qui pouvait être considéré comme abusif, avec le développement de contrats beaucoup plus flexibles, comme des contrats zéro heure, mais qui restent néanmoins relativement marginaux, puisque 2,5% des salariés sont couverts par ces contrats aujourd'hui. Ça, c'est le premier axe, donc un ensemble de politiques de flexibilisation du marché du travail du côté de la demande de travail. Deuxième axe important, c'est ce qu'on appelle le Work Program, qui fusionne une vingtaine de politiques actives pour les chômeurs en s'appuyant sur des opérateurs externes qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Ces opérateurs externes fonctionnent au niveau régional, il y a sur 18 régions au Royaume-Uni et ils sont supervisés par le service public de l'emploi. Troisième axe, l'Universal Credit qui aussi fusionne l'ensemble des crédits d'impôt et des transferts en essayant de donner plus de transparence aux personnes qui bénéficient de ces transferts et notamment en s'assurant qu'il y a des incitations à travailler avec un taux marginal de taxation de 35% des revenus, un système finalement qui ressemble assez fortement à notre prime d'activité mise en place à la suite du RSA, puisque le taux marginal de taxation sur la prime d'activité en France est de l'ordre de 38%. Donc on a un système qui s'approche du système français avec cette volonté d'avoir un système plus transparent, d'essayer de limiter les démultiplications des aides en ayant simplement une seule aide qui donne plus de transparence et plus de visibilité à l'ensemble du système. Et a été mis en place à partir d'avril 2016 un National Living Wage qui complémente le salaire minimum en permettant d'augmenter le niveau du salaire minimum à un niveau beaucoup plus élevé pour les personnes de plus de 25 ans. L'objectif est d'atteindre à l'horizon 2020 un National Living Wage qui correspond à 60% du salaire médian, sachant qu'aujourd'hui le salaire minimum au Royaume-Uni est de l'ordre de 50% du salaire médian. Alors, sur le fond, la stratégie globale de l'Allemagne et du Royaume-Uni, vous voyez, est très différente de celle qu'on a mise en œuvre en France jusqu'à présent. Ces stratégies consistent vraiment à essayer de pousser, d'activer l'offre de travail, notamment en essayant d'activer les dépenses en faveur des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire verser une assurance chômage, une indemnisation chômage, mais sous conditions strictes, avec un service public de l'emploi qui puisse efficacement épauler, voire contrôler les demandeurs d'emploi. Et il y a aussi une très forte des politiques importantes de flexibilisation du côté de la demande de travail avec, c'est un point important je pense, une réflexion qui a été menée sur la formation des salaires aussi, une réflexion qui est assez peu menée en France, dans la mesure où il y a beaucoup de propositions de réforme en France, mais où ce sujet est, je pense, assez mal connu en France. Et c'est ce qui va me conduire aux propositions de réforme que je vais formuler maintenant pour la France. Donc en fait, je pense que la France peut s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger. Évidemment, il ne s'agit pas de plaquer tel ou tel modèle en France, puisque chaque pays a son histoire, ses particularités. Chaque pays est un ensemble extrêmement complexe. Et souvent, ce sont des détails institutionnels qui peuvent changer profondément, qui peuvent influer profondément sur le fonctionnement d'un marché du travail. Et je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance du fonctionnement de chaque pays pour pouvoir porter un regard éclairé, informatif sur son fonctionnement et sur ce qu'il est possible de changer pour essayer de l'améliorer. Alors, c'est l'exercice auquel je vais essayer de me prêter en insistant sur le fait qu'il y a, je pense, trois axes essentiels pour essayer d'améliorer le fonctionnement du marché du travail français. Premièrement, modifier profondément la négociation et la formation des salaires. Je pense que c'est un sujet très important. Deuxièmement, modifier le contrat de travail et troisièmement agir sur l'assurance chômage. Alors, en ce qui concerne la formation des salaires, la France est caractérisée par deux caractéristiques importantes. Tout d'abord, un salaire minimum élevé et deuxièmement, un système de convention collective de branche qui joue un rôle très important, notamment à travers les procédures d'extension. Notre salaire minimum est élevé, il est de l'ordre de 62% du salaire médian, beaucoup plus élevé qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. Vous savez qu'en Allemagne, un salaire minimum a été mis en œuvre depuis 2015. Il est à l'heure actuelle de l'ordre de 50% du salaire médian, même s'il est à un niveau à peine plus faible que le niveau français, lorsqu'on compare le niveau en euros, mais le salaire médian est plus élevé en Allemagne. Alors, je pense que sur ce point, il faut reconnaître que le salaire minimum est un mauvais outil de redistribution du revenu, puisque les augmentations du salaire minimum détruisent des emplois en France. C'est un fait qui est bien documenté en France. Les augmentations du coût du travail au niveau des bas salaires ont un effet négatif en France sur l'emploi. Tel n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, des augmentations du salaire minimum, qui est un niveau beaucoup plus bas qu'en France, semblent ne pas avoir d'effet significatif sur l'emploi. En France, plusieurs études ont illustré très clairement le fait que les augmentations du coût du travail au niveau du salaire minimum ont des effets négatifs sur l'emploi, d'où nos programmes de baisse de charges, qui sont des programmes massifs, qui coûtent dont le coût est très important pour les finances publiques, plus d'un point de PIB si on prend les ajustements charges au sens strict du terme. Mais néanmoins, les augmentations du salaire minimum ne permettent pas de réduire les inégalités de manière efficace parce que elles ne permettent pas de cibler les ménages les plus pauvres. Beaucoup de personnes qui sont rémunérées au salaire minimum ou qui font partie d'un foyer dans lequel une personne travaille au salaire minimum, eh bien, ne font pas partie des ménages les plus pauvres. Beaucoup font partie de 40% sont situés au-dessus de la médiane des revenus des ménages. Donc, lorsqu'on augmente le salaire minimum, on cible des ménages qui ont des revenus tout à fait corrects, qui ne font pas partie du bas de la distribution des revenus. On sait qu'il existe des instruments beaucoup plus efficaces. La prime d'activité, qui a été développée et réformée récemment, qui permet de cibler des ménages à bas revenus de manière beaucoup plus efficace. Et de ce point de vue-là, il semble que la France a déjà commencé à se situer dans cette stratégie, notamment après la création du groupe d'experts sur le SMIC, qui constamment, depuis sa création, a recommandé de ne pas augmenter le salaire minimum au-delà du niveau minimum induit par la règle d'indexation, qui indexe le salaire minimum sur l'inflation et sur la moitié des gains de pouvoir d'achat du salaire moyen ouvrier et employé. Alors, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut modifier, je pense, la règle d'indexation pour pouvoir avoir une évolution moins rapide du salaire minimum et réduire les inégalités d'une autre manière. Il ne s'agit pas ici d'augmenter les inégalités. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de concilier une meilleure maîtrise des inégalités de revenus avec une évolution favorable de l'emploi. Et nous avons des outils beaucoup plus efficaces que le salaire minimum pour atteindre cet objectif. Je pense que l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, le montre clairement et il faut agir sur ce point. Mais je pense que c'est pas suffisant dans la mesure où il y a une autre caractéristique du système de formation des salaires en France qui joue un rôle important, qui est le système de conventions collectives de branches étendues. Vous savez qu'en France, le taux de syndicalisation est faible, sous 8%, alors que le taux de couverture des conventions collectives est très élevé, de l'ordre de 95%. Et lorsqu'il y a des augmentations du salaire minimum, ces augmentations se traduisent par un accroissement des salaires jusqu'à 1,7 SMIC environ. Plusieurs études empiriques l'ont démontré. Et les conventions collectives de branche jouent, de ce point de vue, un rôle important. Donc toute augmentation du salaire minimum se traduit par un ensemble de réactions en chaîne, dont une des courroies de transmission importantes sont les conventions collectives de branche, qui sont étendue systématiquement par le ministère du Travail. Vous savez qu'en l'absence d'arrêté d'extension d'une convention de branche, seuls les employeurs qui sont membres d'une organisation qui a signé cette convention de branche sont couverts par la convention de branche. Comme les conventions en France sont systématiquement étendues, l'ensemble des employeurs sont couverts par les conventions de branche. Cette situation est très différente de celle qui prévaut dans nos pays voisins. Vous savez qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de convention de branche. Les négociations se déroulent au niveau de l'entreprise. En Allemagne, les conventions de branche jouent un rôle important, mais elles ne sont pas étendues. Moins de 1% des conventions de branche en Allemagne sont étendues. La logique en Allemagne qui prévaut est celle de l'adhésion volontaire de l'employeur à la convention de branche, adhésion s'il est aussi membre d'une organisation qui a signé cette convention, avec des procédures de sortie qui ont été aménagées tout au long des années 90 et des années 2000. Donc la logique de fonctionnement des conventions collectives de branche en Allemagne est tout à fait différente de celle que nous observons en France. La logique, c'est celle du sort de labellisation. Un employeur adhère à une convention de branche si elle considère que ça lui permet d'envoyer un signal sur la qualité de la gestion de sa main-d'œuvre. En France, la logique est différente, il n'y a pas de choix. Et les conventions de branche, qui sont souvent signées par des grandes entreprises qui dominent une branche, vous savez qu'en France, il y a plus de 700 branches, jouent aussi un rôle de limitation de la concurrence, dans la mesure où les entreprises peuvent, en imposant des conditions favorables dans certaines dimensions à certains salariés, créer des barrières à l'entrée sur des marchés pour les petites entreprises, des entreprises jeunes qui ont beaucoup moins de capacité financière à pouvoir, dans un premier temps, lorsqu'elles rentrent sur le marché, assurer des conditions aussi favorables que celles de leurs concurrents plus grands, mieux outillés d'un point de vue financier à leurs salariés. Et donc, ceci joue un rôle, je pense, important sur le fonctionnement du marché du travail. Plusieurs études empiriques qui ont été menées au Portugal, en Espagne, montrent que les conventions de branche, lorsqu'elles sont étendues, ont un effet sur l'emploi, sur l'entrée des petites entreprises et sur la destruction aussi des petites entreprises, qui sont un facteur très important de la dynamique de l'emploi, notamment pour les jeunes et pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. La France est Nous sommes conscients en France de ce problème. La voie qui a été choisie pour l'instant consiste à essayer de relancer la négociation de branche en créant une hiérarchie des normes qui aménage des principes de subsidiarité au niveau de l'entreprise et en essayant de repenser la hiérarchie des normes. C'était l'objectif du rapport Combrexelle qui a inspiré très marginalement la loi El Khomri qui a été votée le 9 août 2016. Mais l'examen de la loi montre que les préconisations du rapport Combrexelle n'ont pas du tout été suivies. Elles ont été suivies très marginalement, uniquement dans les dimensions qui concernent l'aménagement du temps de travail, ce qui était déjà pratiquement opéré de facto depuis une loi de 2008. Donc, cette idée selon laquelle il est possible de modifier, d'accélérer la décentralisation des négociations collectives grâce à un réaménagement de la hiérarchie des normes semble très difficile à réaliser parce qu'elle pose des problèmes juridiques très compliqués qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Ils sont aussi très difficiles, je pense, à mettre en œuvre parce qu'il y a une très forte résistance des partenaires sociaux à cette idée selon laquelle il faudrait développer la négociation au niveau de l'entreprise et cesser d'étendre les conventions collectives. Vous savez que le fonctionnement du paritarisme en France repose en grande partie sur ces conventions de branche qui alimentent le paritarisme à travers divers dispositifs, dont la formation professionnelle, les organismes de prévoyance et divers autres organismes liés à la prévoyance pour l'essentiel. Donc ces négociations de branche sont un élément vital pour le paritarisme en France et elles façonnent le paritarisme. Et il semble que revenir sur l'extension serait un moyen de changer profondément la manière dont fonctionne aujourd'hui en France le paritarisme et le syndicalisme. Ce problème du syndicalisme en France est un serpent de mer. Nous nous plaignons beaucoup du fait que nos taux de syndicalisation sont faibles. Je pense que l'extension des conventions collectives de branche joue là un rôle essentiel. Pourquoi les salariés se syndiqueraient au niveau de l'entreprise si ces conventions sont systématiquement étendues? Il n'y a aucune incitation à le faire. Et il faut donc, pour relancer le dialogue social en France, ce point est un point essentiel. Il va bien au-delà de la formation des salaires. Il permettrait de relancer le dialogue social. Je pense qu'il bouleverserait de fond en comble le paritarisme. Et c'est un point essentiel en termes d'économie politique pour penser la possibilité des réformes en France. Les événements du printemps dernier en France, je pense, le montrent très clairement. Donc nous avons en France ce problème qui est très important, ce problème de la négociation collective, qui, me semble-t-il, pourrait être modifié par des modifications de certaines dispositions ayant simplement trait à l'extension des conventions collectives, qui sont des dispositions relativement faciles à changer d'un point de vue juridique, peut-être plus d'un point de vue politique, mais qui semblent assez techniques, je pense, pour de nombreux citoyens, et qui sont peut-être un levier important pour permettre de changer profondément la manière dont fonctionne le marché du travail en France, à terme, à la fois par une modification de la formation des salaires et à la fois par une recomposition de la manière dont fonctionne le paritarisme et l'univers syndical en France. Deuxième point qui me semble important pour améliorer le fonctionnement du marché du travail en France et le débloquer, si je puis dire, c'est l'aménagement du contrat de travail. Vous savez que notre marché du travail est très dual. Il y a à peu près 15% de salariés qui travaillent dans des, sur des contrats en contrat à durée déterminée ou en comme intérimaire. Et ceci est en grande partie une conséquence du fait que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est complexe, très incertaine, peut être très, très coûteuse pour l'employeur. Et ceci provient du fait que nous avons une réglementation, une jurisprudence très particulière sur le contrat à durée indéterminée en France. La logique d'ensemble de notre réglementation consiste à essayer de protéger l'emploi autant que faire se peut. En France, une entreprise ne peut licencier pour des raisons économiques que dans des circonstances très particulières, s'il est impossible de reclasser le salarié dans l'entreprise, tout d'abord. Ensuite, s'il existe des causes réelles et sérieuses, la qualification de ces causes réelles et sérieuses étant, pour l'essentiel, laissée à l'appréciation du juge, ce qui a donné lieu à une jurisprudence très riche, très compliquée à comprendre, lorsqu'on cherche à savoir si telle ou telle entreprise pourra licencier pour ces dites causes réelles et sérieuses et considérer que le licenciement n'est pas abusif. La loi El Khomri essaie de revenir sur ces points, d'éclairer les conditions du licenciement économique. Elle a pour ce faire énuméré un ensemble de conditions qui disposent que des baisses du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, de moins un trimestre pour une entreprise de moins de 10 salariés, deux trimestres pour une entreprise de moins de 50 salariés, etc., eh bien, pouvaient être considérés comme des licenciements qui étaient motivés par des causes réelles et sérieuses. Mais l'ampleur de la baisse n'est pas clairement qualifiée. Et ce sera une baisse de 1%, de 0,1%, de 10% qui sera jugée comme suffisante par le juge. C'est pour l'instant, nous sommes toujours dans le flou sur ces points. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas considérer que la loi El Khomri a clarifié les conditions du licenciement économique. Nous n'avons pas beaucoup avancé sur ce point, pas du tout, je pense, sur le fond. Et tout reste à faire. Donc, il faut aujourd'hui, je pense, modifier le code du travail sur ce point, en limitant le contrôle du juge à la réalité de la cause, et non plus à imposer le fait qu'il faut une cause sérieuse de licenciement, simplement que le juge vérifie qu'il y a eu réorganisation ou non, qu'un licenciement a lieu pour des causes économiques, si on a effectivement modifié la composition d'entreprise, les postes de travail, on n'a pas simplement licencié telle personne pour des raisons qui sont liées à son appartenance syndicale ou à sa religion. Ça, c'est du contrôle du juge, pas de licenciement discriminatoire de ce point de vue, simplement vérifier la réalité de la cause. Le contrôle du juge devrait se limiter à ce type de vérification. Et il faut aussi supprimer les obligations de reclassement pour les entreprises. Le reclassement doit peser sur la collectivité. C'est la collectivité qui prend en place qui prend en charge le reclassement, c'est-à-dire un service de public de l'emploi qui s'appuie sur des opérateurs externes, quitte à ce que les entreprises contribuent aux frais qui sont liés à ce reclassement, puisque lorsqu'une entreprise licencie, il y a un coût pour la collectivité et l'entreprise, par un système de bonus-malus qui a été beaucoup défendu par Jean Tirole notamment, et qui est un membre éminent de cette académie, permettent de donner des bonnes incitations aux entreprises sans faire peser sur elles des obligations de reclassement qui, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas capables d'assumer, notamment lorsque ces entreprises sont petites. Donc, après, la modification, les réformes du contrat de travail, le dernier point important, sachant que je laisse en suspens ici d'autres points dont nous pourrons discuter dans la discussion qui devrait suivre cet exposé, l'assurance chômage en France est aussi un sujet très important pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, parce que c'est un pan très important de notre protection sociale, et je pense qu'elle influe de manière importante sur le fonctionnement du marché du travail. En France, dans le secteur privé, un salarié cotise annuellement à peu près un mois de salaire net pour l'assurance chômage, si je compte les cotisations employeur. Donc, c'est un montant énorme. Chaque salarié paye, en tenant compte des cotisations employeur, à peu près un mois de salaire net par an. Le budget de l'assurance chômage est de l'ordre de 1,5% de PIB, de l'ordre de 30 milliards d'euros. Son déficit actuel est de 4,5 milliards d'euros et ses dettes de l'ordre de 30 milliards d'euros aussi. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle les compte de l'assurance chômage paie de manière importante sur les comptes publics, puisque l'État est garant, en dernier ressort, des comptes de l'assurance chômage, des dettes de l'assurance chômage. Et en France, il est pourtant possible, semble-t-il, d'améliorer le fonctionnement du marché du travail en améliorant le fonctionnement de l'assurance chômage, en ayant un système plus efficace qui soit tout aussi favorable aux demandeurs d'emploi. En effet, la France a un système qui est très particulier en ce qui concerne l'indemnisation des chômeurs. Se développe depuis une vingtaine d'années une sorte de système d'intermittent généralisé qui concerne une grande part des chômeurs. Et ce système porte le nom d'activité réduite. Il s'appuie sur une logique qui a priori peut avoir du sens, mais qui, je pense, a été dévoyée. En France, en 2015, 46% des demandeurs d'emploi indemnisés sont en situation d'activité réduite, c'est-à-dire cumulent des revenus d'activité avec l'assurance chômage. Ce système est tout à fait logique. Il existe dans de nombreux pays. Cette idée selon laquelle il peut être utile de cumuler des revenus d'activité avec l'assurance chômage, parce que lorsqu'un demandeur d'emploi indemnisé se voit proposer un CDD de 2 jours, par exemple, on peut penser qu'il peut avoir intérêt à travailler pendant 2 jours et à ne pas perdre les bénéfices de l'assurance chômage s'il décide de reprendre un emploi pour une très courte durée. Donc on voit, et il voit très très clairement que pour l'assurance chômage se pose ce problème de savoir comment articuler des contrats très courts avec l'indemnisation chômage. Et dans de très nombreux pays, il y a cette possibilité de cumuler indemnisation chômage avec revenu d'activité, la plupart du temps pendant une période limitée et en compensant par une baisse de l'allocation chômage les périodes qui ont été travaillées. Ceci étant, en France, les paramètres de l'assurance chômage conduisent à une situation où une personne peut travailler indéfiniment environ à mi-temps, en complétant son système, en complétant ses revenus d'assurance chômage par des revenus gagnés dans le cadre de contrats courts et en gagnant à peu près, en travaillant à peu près à mi-temps, c'est-à-dire à peu près un jour sur deux, et en gagnant à peu près 85% du revenu qu'il obtiendrait s'il travaillait à temps plein lorsque cette personne est rémunérée au niveau du SMIC. Je pourrais revenir dans la discussion sur les règles qui aboutissent à ces situations qui sont un petit peu techniques, mais cette situation ne se trouve nulle par ailleurs. Donc aujourd'hui en France, nous avons à peu près 750 000 personnes qui sont dans des situations où elles alternent à peu près à mi-temps depuis 5 ans, une période d'activité et d'inactivité qui sont donc alimentées par l'assurance chômage. Donc de facto, c'est un système d'intermittent, c'est pratiquement généralisé pour à peu près 750 000 personnes. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces personnes sont souvent réembauchées dans les mêmes entreprises. Les réembauches en France sont très importantes. 69% des embauches en France sont des réembauches chez un ancien employeur, et à peu près la moitié sont des réembauches chez le même employeur. Donc en France, c'est généraliser ce système qui coûte cher à l'assurance chômage, qui coûte de l'ordre de 5 milliards d'euros par an, selon les calculs que nous avons réalisés avec Corinne Prost dans un rapport que nous avons fait pour le Conseil d'analyse économique l'an dernier. Et évidemment, il génère beaucoup de passages par le chômage, il génère des difficultés pour les personnes qui sont dans ce système, qui n'est évidemment pas choisi par une grande majorité des personnes qui sont dans ce système, à avoir un emploi stable, avec donc beaucoup de passages par le chômage, une grande difficulté à construire des carrières professionnelles. Et il est très important, je pense, de modifier ce système, d'aller vers un système qui permette d'assurer que les personnes ne peuvent pas rester indéfiniment dans ce système d'activité réduite, tout en donnant une assurance chômage qui soit suffisamment généreuse pour permettre de retrouver un emploi dans de bonnes conditions. Alors, je vais, en guise de conclusion sur ces propositions de réforme et l'éclairage que nous ont apporté nos pays voisins, je pense que l'Allemagne et le Royaume-Uni nous montrent clairement qu'il est possible de réduire drastiquement le chômage. Il est possible de réduire drastiquement le chômage, et les leviers sur lesquels ces deux pays ont joué sont similaires. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays dans lesquels il y a des taux de chômage faibles, que ce soit l'Autriche, que ce soit la Suisse, que ce soit aussi les États-Unis qui sont plus loin de nous, ces pays ont joué systématiquement sur le même levier. Aucun pays n'a réussi à vaincre le chômage en jouant sur en étant inspiré par des logiques malthusiennes. Il est aussi frappant de constater que ces pays ont réussi à réduire le chômage avec pendant des périodes dans lesquelles leurs dépenses publiques ont été plutôt réduites. C'est l'exemple du Royaume-Uni ces dernières années. C'est aussi l'exemple de l'Allemagne. Donc, les logiques à l'œuvre ne sont pas du tout des logiques keynésiennes. Nous sommes très loin ici des logiques keynésiennes. Le chômage structurel a une existence propre qui est assez indépendante de l'évolution des dépenses publiques. Je crois que nous en avons une illustration. Nous avons en France une assez belle illustration du fait qu'il est possible d'accroître les taux d'emploi de manière très significative, très importante, même en période de récession. La réussite française, je dirais, en la matière, c'est le taux d'emploi des seniors de 2008 à 2012 qui a gagné pratiquement 10 points avec, il est vrai, une augmentation du taux de chômage, mais qui n'est sans commun pour cette catégorie de population, qui s'est normalisée au niveau un peu en dessous du niveau moyen de l'ensemble de la population, mais qui est sans commune mesure avec l'augmentation des taux d'emploi des seniors. Donc la France a une très belle réussite en matière de création d'emplois de 2008 à 2012 pour nos seniors, grâce à des leviers très, très bien connus, le recul de l'âge de la retraite. Donc la France est capable de mettre en œuvre ce type de réforme sur certains segments. C'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il faut maintenant montrer qu'elle est capable de le faire dans d'autres domaines. C'est possible. J'ai essayé de vous en convaincre à travers les quelques axes de réforme que j'ai proposés. Je serais maintenant très heureux d'écouter vos remarques, critiques et suggestions sur ces points que j'ai soulevés. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. La première... et celle d'Yvon Gattaz, qui s'était manifestée dès le début de votre intervention.
Merci, Monsieur le Président. Bon, je voudrais féliciter Pierre Kahl, que nous connaissons bien dans cette maison, puisque, comme vous l'avez rappelé vous-même, nous lui avions accordé, en 2006, le grand prix de la section d'économie, le prix Cyrilli Mérimée, pour son ouvrage de l'époque, qui avait eu beaucoup de succès en France, comme les suivants d'ailleurs. Alors, après l'exposé de Pierre Cahuc, on vient de comprendre, si on ne le savait pas avant, que l'emploi en France est d'une extrême complexité. Et une complexité que je t'accède à normal. Nous, employeurs, nous, chefs d'entreprise, nous subissons cette complexité au jour le jour, et elle est une des raisons de ce chômage plus important en France qu'ailleurs. Rigidité, vous l'avez montré, complexité, ne serait-ce que les contrats de travail. Nous avons une trentaine de contrats de travail actuellement, et actuellement, depuis quelques années, nous en avons 5 ou 6 nouveaux que vous connaissez aussi bien que moi, le contrat d'accompagnement de l'emploi, le contrat d'avenir, le contrat d'insertion dans la vie sociale, le contrat de mission à l'exportation et beaucoup d'autres. On invente les contrats en permanence. D'autre part, vous savez, vous l'avez signalé dans votre exposé, combien il est difficile de licencier. Les indemnités prud'homales sont devenues himalayennes. Vous embauchez une jeune personne à un échelon modeste qui ne fait pas l'affaire du tout, vous la licenciez au bout de 3 mois, et les prud'hommes accordent 1 an d'indemnité de licenciement, comme vous le savez. Tout ça sont des freins extraordinaires à l'emploi. Alors, moi, je parle beaucoup d'emploi et peu de chômage, je prends l'avers positif de la médaille. Mais je suis obsédé depuis 30 ans par l'emploi des jeunes. Et je me bats, comme vous le savez, pour ça, avec peu de succès d'ailleurs. Je ne sais pas quoi faire pour le rôle des jeunes. Et je vais vous le dire, et ce sera ma question d'ailleurs à Pierre Cahuc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir pour que nos jeunes ne restent pas sans emploi? Je crois que le chômage des jeunes, c'est la forme la plus éprouvante de la pauvreté moderne. On nous amuse avec des inégalités de revenus, pourquoi pas, qui relèvent parfois de la jalousie sociale, mais ce n'est pas l'inégalité des revenus qui est inquiétante. Moi, au contraire, je me sers de l'inégalité des revenus auprès des jeunes pour leur montrer que les riches peuvent leur servir de modèle. Et dans toutes mes causeries, je leur projette les milliards gagnés par les start-up. C'est l'inverse des inégalités sociales, c'est l'envie sociale. Transformer la jalousie en envie, ce qui est quand même pas mal. Mais ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est l'avenir de l'emploi des jeunes. Alors, vous en avez peu parlé, mais votre exposé était tout à fait remarquable. Finalement, tous les progrès techniques, toutes les mécanisations et autres robotisations, on nous le dit depuis toujours, détruisent des emplois anciens, on le sait depuis 1831 avec les canuts de Lyon, mais créent des emplois nouveaux, plus performants. Ce qu'on n'ajoute pas, c'est qu'ils créent des emplois plus performants, mais en nombre inférieur. Nous allons vers une meilleure qualification des emplois, mais une réduction mondiale des emplois. Alors ma question est tout à fait perfide. Qu'est-ce qu'il va se passer, cher Pierre Cahuc, si nos progrès de mécanisation et d'automatisation se multiplient comme c'est probable, en supprimant des emplois, en supprimant sans arrêt des emplois. D'ailleurs, par parenthèse, j'ajouterais que tous les employeurs que nous sommes ne rêvent qu'à une chose, limiter ou supprimer les emplois. La chasse aux emplois est actuellement mondiale. Nous faisons tous la chasse aux emplois sans l'avouer. La France, même gouvernementale, a commencé lorsqu'elle a supprimé les poissonneurs du métro. Elle était assez fière de montrer dans le monde entier que la France avait été la première à supprimer les poissonneurs du métro. Mais ils sont allés où, ces poissonneurs du métro ? Donc, sur le nombre d'emplois, je suis extrêmement inquiet. Les automatisations supprimant des emplois, que se passera-t-il, cher Pierre Cahuc, dans quelques décennies, si que ferons-nous des emplois peu qualifiés ? Alors, la réponse qui vous dit, il n'y a qu'à les qualifier, vous savez comme moi que ce n'est pas tellement facile. Moi, je m'occupe de la qualification des jeunes depuis 30 ans. Ce n'est pas facile. Les peu ou pas qualifiés, nous avons une peine folle à les caser. Et ma question, et j'en termine par là, cher Président, que pensez-vous qu'on fera dans les décennies qui viennent pour les populations mondiales peu ou pas qualifiées et qui seront inadaptables aux métiers hautement qualifiés? Est-ce qu'on va faire des réserves d'Indiens subventionnées ou des cités où on parquera les non-qualifiés en Chine, en Inde ou ailleurs?
Pierre Cahuc.
Oui, merci pour vos questions qui ont trait essentiellement au chômage des jeunes et à l'avenir du travail. Sur le chômage des jeunes, il est vrai que j'ai peu parlé du chômage des jeunes ici. C'est un sujet extrêmement important, d'autant que nos jeunes ont un taux de chômage de l'ordre de 25% aujourd'hui, qui est un taux de chômage très élevé et qui se concentre sur les personnes les moins qualifiées, nos malheureux 160 000 ou 140, 160 000 personnes qui sortent du système scolaire sans diplôme chaque année. Alors, ce qui est frappant lorsqu'on regarde par exemple le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est que le Royaume-Uni et l'Allemagne, bien qu'ayant des performances proches sur le taux de chômage moyen, ont des performances très différentes en ce qui concerne le taux de chômage des jeunes. Le taux de chômage des jeunes au Royaume-Uni a diminué récemment, mais il est beaucoup plus élevé que celui des adultes, lors de 2,5 fois plus élevé. En Allemagne, il est pratiquement au même niveau. Il est à 6,5% aujourd'hui. Il est beaucoup plus faible. Lorsqu'on regarde les États-Unis, on s'aperçoit aussi qu'aux États-Unis, bien que le marché du travail soit très flexible, le chômage des jeunes est élevé. Les jeunes ont du mal à trouver du travail, notamment les jeunes peu qualifiés. On s'aperçoit que le taux de chômage des jeunes est faible dans les pays dans lesquels il y a une forte connexion entre le système éducatif et le système des entreprises. Et il y a deux exemples différents qui illustrent ce propos. Il y a l'apprentissage, qui est développé en Allemagne, en Suisse, en Autriche, pays dans lesquels, effectivement, les taux de chômage sont faibles pour les jeunes relativement à la population adulte, simplement parce que l'apprentissage, ce n'est pas que obtenir des compétences qui soient valorisées dans l'entreprise, mais c'est aussi la possibilité d'être en contact avec un employeur pendant ses études et la possibilité de rester dans cette entreprise ou dans une autre entreprise qu'on a rencontré en travaillant, en étant dans le monde du travail. Et donc ça, c'est une manière, je pense que c'est très important, de réaliser cette connexion. Parce que quand on regarde le parcours des jeunes sur le marché du travail en France, on s'aperçoit que les jeunes trouvent un emploi pratiquement plus rapidement que les adultes, mais ils le perdent beaucoup plus souvent. Le drame pour un jeune en France, c'est qu'il perd son emploi très très souvent et lui faut du temps pour en retrouver. Il y a un autre exemple qui, je pense, qui est fascinant pour comprendre ce mécanisme, c'est l'exemple du Japon. Au Japon, l'apprentissage est très peu développé, mais il y a un système qui est très original, qui consiste à repérer dès l'équivalent de la première en France, avant la terminale, les jeunes qui veulent arrêter leurs études à la fin de la terminale. Et ces jeunes sont mis en relation avec des conseillers qui travaillent dans les écoles, qui sont connectés au service, au pôle emploi, si vous voulez, au pôle emploi japonais. Et pendant un an et demi, ces jeunes choisissent un emploi grâce à un réseau d'entreprises locales qui sont connectées au service public de l'emploi et à ces lycées qui essayent d'assurer un emploi pour ces jeunes. Il y a un système très organisé. Les entreprises n'ont pas le droit de débaucher les jeunes avant la fin de leur étude. Donc il y a une date, l'année dernière, enfin, par exemple le 15 septembre. Le 15 septembre, les jeunes peuvent aller travailler dans les entreprises. Ce système est très coordonné et le taux de placement est très élevé. Il est d'ordre de 98%. Donc 98% des jeunes japonais qui arrêtent leurs études au niveau du lycée ont un emploi dans une entreprise. Et le taux de chômage des jeunes au Japon est du même niveau que celui des adultes. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un axe de réflexion qu'il faudrait développer en France. On pourrait penser en France, développer l'apprentissage, c'est un point, mais aussi mieux connecter Pôle emploi, les missions locales, avec les écoles, connecter les entreprises avec ces jeunes qui pourraient trouver des débouchés professionnels de manière beaucoup plus directe, apprendre ce qu'est l'entreprise, apprendre ce qu'est un travail dans l'entreprise, commencer à aller faire des stages de manière beaucoup plus intensive lorsque ces jeunes, pour des raisons diverses, ne désirent pas poursuivre leurs études au-delà du lycée, quitte à ensuite, évidemment, se former lorsqu'ils seront en emploi. En ce qui concerne l'évolution du futur du travail, personnellement, l'examen du passé, de l'histoire, de nos voisins, ne me procure aucune inquiétude sur l'avenir du travail. Le travail se crée lorsque des emplois plus productifs sont créés. Il y a des personnes qui ont des revenus beaucoup plus élevés, qui peuvent exprimer d'autres goûts, qui donnent la création de nouveaux emplois dans les services, qui peuvent être des emplois qualifiés, des emplois qui permettent d'exprimer des compétences dans divers domaines liés aux services, aux personnes. Nous avons en France de très grands cuisiniers, de très grands professeurs de danse. Nous sommes dans une situation dans laquelle les personnes riches peuvent avoir des loisirs, peuvent avoir beaucoup d'exigences, et ça crée beaucoup, beaucoup d'emplois qui peuvent être très qualifiés. Il y a un ouvrage fascinant sur ce thème, c'est l'ouvrage d'un professeur aux États-Unis qui s'appelle Moretti, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « The New Geography of Jobs », qui explique que maintenant on se réalloue les emplois. Et comment sont créés des emplois lorsque des entreprises qui ont des emplois à très haute valeur ajoutée s'installent. Ce livre est assez fascinant. Il raconte de très nombreuses expériences qui peuvent nous rendre très optimistes sur l'avenir de l'emploi. Il y aura création d'emplois, je pense, de plus en plus intéressants. Et des personnes qui, aujourd'hui, peuvent sembler inadaptées au système scolaire pourront trouver, si on les accompagne vers ces emplois, pourront trouver des tas de, je pense, beaucoup de moyens d'exprimer leur originalité, leur projet, dans des emplois de service qui seront de plus en plus divers.
Vous me permettez d'ajouter 30 secondes, Monsieur le Président.
Simplement, si vous
une petite remarque de 30 secondes à propos de la comparaison de le chômage entre la France et l'Allemagne et le taux de chômage du BIT. Le BIT définit le taux de chômage de façon tout à fait anormale. Il met en numérateur les chômeurs et en dénominateur la population active. Je suis sûr que nos confrères ne savent pas ce que c'est que la population active. La population active en France, c'est les actifs, bien sûr, c'est les chômeurs qui sont dans la population active, moins 100 les scolarisés. Or, comme nous avons le plus de scolarisés en Europe, et que nos apprentis, au lieu d'être des salariés comme en Allemagne, sont des scolarisés, si vous diminuez le dénominateur, vous augmentez la fraction. Voilà pourquoi on affiche 25% de chômage pour les jeunes. Par bonheur, on n'en a pas un sur quatre au chômage, c'est faux. J'aime beaucoup mieux, moi, la part de chômage d'Eurostat, qui est mon numérateur de chômeurs, et bien sûr, toute la population des jeunes.
Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, non? Bertrand Collomb.
Oui, merci pour ce tout à fait remarquable exposé. Dans le fond, donc, ce chômage, il est dû à deux éléments, probablement. L'un, c'est la répartition des salaires, et l'autre, c'est la flexibilité du marché de l'emploi. Les entreprises sont évidemment très sensibles à la flexibilité du marché de l'emploi, et on n'ose pas trop parler de l'éventail des salaires, parce que c'est plus difficile. Mais on a le sentiment, à vous entendre, qu'en fait, l'éventail des salaires est probablement ce qui est la cause fondamentale quand on regarde avec l'Angleterre et l'Allemagne. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'importance relative des deux éléments? Alors, deuxième question. En Allemagne ou en Angleterre, le spectre des salaires est beaucoup plus étalé. Il y a beaucoup plus de petits boulots, pas chers, etc. Même les salaires zéro en Angleterre, etc. Vous nous avez dit, c'est très intéressant, que l'inégalité des revenus que cause cet éventail des salaires est largement corrigée par la redistribution, ce qui fait que, après redistribution, l'inégalité n'aurait pas augmenté beaucoup en Allemagne. Alors, vous avez parlé un peu de l'Angleterre, mais vous n'avez pas vraiment expliqué comment, en Allemagne, on a fait des mécanismes de redistribution efficaces, parce que c'est pas difficile de faire des mécanismes de redistribution, et pour les faire efficaces, c'est plus délicat. Et sur l'Allemagne, j'aurais aussi une toute petite question. On parle de la sortie des conventions collectives, mais quel est le pourcentage des entreprises, non pas en nombre d'entreprises, mais le pourcentage des effectifs des entreprises qui sont en dehors des conventions collectives en Allemagne? J'ai l'impression qu'il y a quand même encore un comportement collectif qui reste important. Enfin, dernier point, vous avez dit que vous pensiez qu'il fallait supprimer l'obligation de reclassement des entreprises. Là, je suis en léger désaccord. Je pense qu'il faut rendre la flexibilité des effectifs d'entreprises, il faut rendre beaucoup plus facile l'ajustement des effectifs d'entreprises. Mais je pense qu'il faut laisser aux entreprises, en tout cas celles qui en ont les moyens, c'est-à-dire les grandes entreprises et celles qui ne sont pas en faillite, une certaine responsabilité dans le reclassement. Alors pas non plus de leur demander un reclassement tous azimuts, y compris à Formose, etc., enfin comme certaines jurisprudences ont essayé de le faire, mais et pas en faire une obligation de résultat quand ça ne peut pas être autre chose qu'une obligation de moyens. Mais je pense qu'il y a deux raisons pour ça. L'une, c'est une raison qui me tient à cœur, mais je pense que l'entreprise est une communauté humaine et qu'elle ne doit pas laisser tomber les gens qu'elle est amenée à licencier. Et l'autre, c'est une question d'efficacité, parce que je pense que l'expérience montre que quand une entreprise aide des gens à essayer de retrouver un emploi, c'est beaucoup plus efficace que quand c'est le Pôle emploi, en tout cas dans les conditions actuelles, qui aide les mêmes personnes à essayer de retrouver un emploi.
Pierre Cahuc.
Oui, je vous remercie pour cette intervention. Ces questions, je vais commencer par la fin, si vous voulez, sur les obligations de reclassement. Le système que préconisent beaucoup d'économistes consiste à substituer aux obligations de reclassement des entreprises un système de bonus-malus, sachant que si l'entreprise reclasse, il n'y aurait pas de... Voilà, donc ça crée une incitation. Ce qui est frappant aujourd'hui dans la législation française, c'est la manière dont est explicitée cette obligation de reclassement. Je vais vous lire l'article 12.33.4 du Code du travail, qui est un article assez fascinant. Je le lis. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Donc, que veulent dire tous les efforts de formation et d'adaptation? Est-ce que l'entreprise doit payer son chiffre d'affaires, donc tout ça, évidemment... Ce que je veux dire, c'est que les obligations de reclassement qu'on fait peser sur les entreprises sont aujourd'hui...
Dans le bassin d'emploi qui peuvent être aidés par l'entreprise et qui peuvent être efficaces.
Bien sûr. Donc, enfin, tout à fait, enfin, d'accord avec ce type de, avec cette optique. Je pense que le levier efficace pour faire ceci, c'est d'avoir un système dans lequel les entreprises sont mises à contribution financièrement, parce que effectivement, elles négligent le coût induit pour la collectivité lié au licenciement ou à l'utilisation de CDD et autres. Et donc un système de bonus-malus qui incite les entreprises à en tenir compte, eh bien incitera aussi les entreprises à reclasser les salariés dans une autre entreprise ou dans leur entreprise. Donc c'est, je pense que c'est le levier adapté pour faire ce genre de choses, parce que les règles en la matière sont toujours très difficiles à mettre en œuvre.
Si l'effort de reclassement qu'ils font est, et s'il en est tenu compte dans la pénalité financière, effectivement, ouais. c'est pas une mauvaise solution.
C'est le cas, bien sûr. C'est-à-dire que les propositions des économistes sont qu'il soit tenu compte, que le bonus-malus tienne compte de cela.
Oui, puisque le bonus-malus serait calculé en fonction du coût que l'entreprise induit pour l'assurance chômage. Donc, si le salarié est classé, normalement, il n'induit pas de coût. L'importance du salaire. Oui, je pense que le salaire joue un rôle très important. Quand on regarde les données macroéconomiques avec l'évolution du coût du travail en Allemagne pendant toute la fin de la décennie 90 l'année 2000 et l'évolution de l'emploi, je pense que c'est assez illustratif, même si c'est loin d'être une preuve. Mais si on regarde la situation française, en France, les personnes qui sont au chômage sont des personnes qui peuvent prétendre à de bas salaires. Pour les personnes qui peuvent prétendre à des salaires au-dessus de 1,5 SMIC, les taux de chômage sont faibles. Ils sont en dessous de 5%, autour de 5%. Donc notre problème de chômage est un problème de bas salaires, enfin d'insuffisance de demande de travail au niveau des bas salaires. Donc c'est ceci qu'il faut débloquer. Je pense que les politiques publiques en sont très conscientes, puisqu'on baisse les charges sur les bas salaires. C'est très onéreux. Et comme je l'ai indiqué, c'est une manière très onéreuse de refaire de redistribuer le revenu. Est très inefficace. Donc, laisser s'ajuster les salaires de manière plus libre au niveau des bas salaires, avec des compensations ciblées grâce à des systèmes de crédit d'impôt type prime d'activité ou autre, serait beaucoup plus efficace. Mais effectivement, la formation des salaires, me semble-t-il, est un problème très important qui a été beaucoup négligé en France. Je reviens sur cette extension des conventions collectives. Je crois que c'est vraiment un sujet très important qu'on a beaucoup trop négligé. Il y a des réformes qui ont été menées au Portugal sur ce sujet récemment et qui semblent avoir eu un rôle important. Le Portugal a un taux de chômage qui baisse de manière importante, qui aujourd'hui est à 10,5%, à peine plus élevé que chez nous. Et la fin d'extension des conventions collectives qui a été mise en œuvre semble avoir joué un rôle important. Il y a plusieurs travaux empiriques qui vont dans ce sens. Et je travaille sur ces sujets, sur les données françaises à l'heure actuelle. J'espère bien que nous aboutirons à des résultats illustratifs qui permettront d'alimenter le débat. Ensuite, sur les inégalités en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors, les inégalités au Royaume-Uni sont évidemment beaucoup plus importantes historiquement, et elles ont continué à augmenter.
La question est surtout sur l'Allemagne.
Oui, sur l'Allemagne. Alors, l'Allemagne a un système, je ne peux pas vous répondre précisément, mais le roman, je connais insuffisamment les détails du système allemand, qui est un système qui s'apparente à un système type RSA, crédit d'impôt, ciblé sur des familles, effectivement, selon leur situation familiale. Je ne connais pas suffisamment pour vous donner des réponses précises sur ce sujet. C'est une question intéressante. Voilà.
Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'expliquer ce que c'est que l'indice de Gini ? Parce que la plupart de vos auditeurs ignorent l'existence de cet indice.
L'indice de Gini, c'est un indice qui permet de mesurer les inégalités. Les inégalités sont d'autant plus grandes que cet indice est grand. Il permet de mesurer les inégalités sur l'ensemble de la répartition de la dispersion des revenus. D'accord ? Donc, il faudrait faire un petit graphique pour pouvoir expliquer ce qu'est l'indice de Gini. Mais disons, intuitivement, l'indice de Gini est égal à... Donc voilà, il croît avec l'augmentation avec l'augmentation des inégalités.
Ouais. C'est cela, en répartissant les revenus par déciles successifs et en ayant effectivement une formule qui permet de mesurer l'importance de l'écart global... plus l'indice est bas et plus cet écart est faible.
Merci, Monsieur le Président. Des questions simples et naïves d'un citoyen français de base, enfin, qui est tout à fait incompétent dans ce domaine. Avez-vous étudié, vous, vos collègues, c'est un vous collectif, comment les mesures de réforme ont été introduites en Allemagne et en Angleterre et pourquoi elles ont été acceptées? D'où la deuxième question. Les mêmes circonstances ou le même milieu favorable existe-t-il en France? Et donc la troisième question, si oui, pourquoi diable ces réformes n'ont pas-elles déjà été introduites? Et sinon, comment s'y prendre pour rendre le milieu favorable à l'introduction et à l'acceptation? Autrement dit, une question de nature politique et non pas de nature économique et technique. Merci.
Pierre Cahuc.
Alors, sur ce sujet, vient d'être publié un ouvrage assez très intéressant, dont un des éditeurs est John Martins, qui a été chef économiste à l'OCDE pour tous les problèmes d'emploi, qui contient des interviews de personnels politiques qui ont mis en œuvre des réformes dans les pays d'Europe. Cet ouvrage s'appelle Europe Reforms Labour Markets. Il y a une interview notamment de François Fillon en France, de Gérard Schröder en Allemagne et de Tony Blair pour le Royaume-Uni. Ce qui est frappant, je dirais malheureusement, dans ces interviews, je ne parle pas de l'interview de François Fillon, je parle de l'interview de Gérard Schröder et de Tony Blair, c'est le fait, notamment dans l'interview de Tony Blair, de Gérard Schröder, que malheureusement, le dialogue social n'est pas passé par les partenaires sociaux. Il a fallu court-circuiter les partenaires sociaux pour mettre en œuvre ces réformes. Lorsque Gérard Schröder est arrivé au pouvoir en 1998, il a mis en place un comité composé des partenaires sociaux pour réfléchir à la mise en œuvre de réformes. Ce comité, après 4 ans d'existence, n'a pas abouti. Et Gérard Schröder a décidé de s'appuyer sur, disons, une prise d'acte plus directe en s'appuyant sur les réformes Hart. Et sur le Royaume-Uni, ben, vous connaissez l'histoire thatchérienne, qui est une histoire aussi de démantèlement du monde syndical de manière assez violente. Et il est vrai que dans ces deux pays, malheureusement, il n'y a pas eu, de mise en œuvre de ces réformes importantes sur le marché du travail, d'un commun accord coordonné avec les partenaires sociaux. Les pays scandinaves semblent, de ce point de vue-là, beaucoup plus, beaucoup plus civilisés, beaucoup plus efficaces. Malheureusement, pour ces deux pays, ça ne s'est pas passé comme ça. La conclusion pratique que j'en tire pour la France, c'est celle qui a trait à la discussion que j'ai essayé de mener sur l'extension des conventions collectives. Je pense qu'il faut trouver un levier pour modifier la manière dont fonctionne le paritarisme en France et le dialogue social. Le pari qui a été pris en 2007, vous savez qu'en 2007, le 31 janvier 2007, était votée une loi qui s'appelle la loi Larcher, qui oblige le gouvernement à consulter les partenaires sociaux avant de légiférer dans le domaine du social. Cette loi Larcher donc a donné lieu à des accords nationaux interprofessionnels qui ont réformé le marché du travail, plusieurs accords nationaux interprofessionnels qui ont donné lieu donc à tout un ensemble de lois. Malheureusement, ces réformes n'ont pas modifié le fonctionnement du marché du travail de manière substantielle. Il y a eu quelques innovations, par exemple comme la rupture conventionnelle, aussi la loi de 2013, sur la modification des licenciements collectifs. Il y a eu quelques points aussi sur la formation professionnelle, des choses très marginales, mais pas de modifications importantes. Donc, je pense que c'est un constat d'échec de cette démarche. Et la voie qui a commencé à être, si vous voulez, suivie à travers La loi El Khomri qui essaie de décentraliser le dialogue social, donner plus de poids au niveau de l'entreprise. Maintenant, Paris sur la décentralisation. Et je pense que c'est effectivement une bonne stratégie, mais la stratégie devrait s'appuyer, ne pourra pas fonctionner si on continue à étendre les conventions collectives, à couvrir tous les salariés. Donc il faut aujourd'hui, je pense que le pari en France, si on veut faire ça de manière, disons, douce et progressive, si je puis dire, consiste à essayer de modifier la manière dont fonctionne le syndicalisme en France, et au-delà du syndicalisme, le paritarisme, parce que je pense qu'il y a une opposition de tout un appareil, l'appareil paritaire, à de très nombreuses réformes qui bloquent le fonctionnement du marché du travail en France.
Selon vous, l'alternative est entre la ruse plus ou moins hypocrite et la dictature romaine?
Non, je pense qu'une grande partie du monde syndical est attachée un syndicalisme qui a du sens, qui joue son rôle dans l'entreprise, qui défend les intérêts des salariés face à des entreprises qui auraient trop de pouvoir de marché, ou aussi une volonté de pouvoir échanger pour améliorer les conditions de travail, améliorer la performance de l'entreprise. Donc beaucoup de syndicalistes sont attachés à cette logique syndicale. C'est pas forcément aujourd'hui ceux qui sont le plus représentés dans le monde syndical à tous les niveaux, mais évidemment il y a beaucoup de syndicalistes qui ont ces valeurs, je pense, et qui se retrouveraient dans ce type de réforme.
François Dorcival.
Merci, Monsieur le Président, et merci à notre communicant, Monsieur Pierre Cahuc, de son exposé, qui a l'avantage d'être un exposé d'analyse comparée. Et ma question va prolonger à la fois la question de Jean Béchler et la réponse que vous venez de formuler, puisqu'elle porte sur les syndicats, précisément, qui, d'une manière générale, sont toujours interprétés comme principal obstacle à toute réforme. Vous avez très bien dit que le taux de syndicalisation était très faible dans le monde de l'entreprise en France, on pourrait dire à l'exception de la fonction publique, évidemment. Taux de syndicalisation très faible, ce qui signifie que les syndicats sont, dans ce domaine, peu représentatifs. Bien. Vous dites en même temps que le système des conventions collectives obligatoires étendues à toutes les entreprises sont d'une certaine façon contraires au rôle de chaque organisation syndicale. En même temps, la semaine dernière, nous observions ici même que le paritarisme institutionnel était lui aussi en soi un obstacle à la réduction des dépenses publiques. Alors, quels sont les arguments que tout homme politique qui veut réussir devrait pouvoir utiliser pour poursuivre ce que vous avez dit? Vous avez fait l'introduction dans ce domaine, c'est-à-dire comment séduire les organisations syndicales pour que celles-ci ne se bloquent pas alors qu'elles sont si faibles et qu'elles peuvent avoir à gagner dès lors que le dialogue se fait dans l'entreprise. Merci beaucoup.
Pierre Cahuc.
C'est une question particulièrement difficile. J'ai peur de ne pas avoir de réponse précise sur ce sujet. Je pense que pour un homme politique, aborder ce sujet, pour un homme politique qui fait une carrière politique, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que c'est pratiquement impossible, dans le sens où, effectivement, toutes les collectivités... Aujourd'hui, en France, une carrière politique se construit beaucoup par des mandats locaux et ensuite une ascension. Avoir des mandats locaux qui se passent bien, ça signifie avoir de bonnes relations avec le monde du paritarisme, avec les syndicats. Et je l'ai vu, j'ai fait plusieurs rapports sur la formation professionnelle. En off, si je puis dire, tous les hommes politiques m'indiquent bien qu'ils sont d'accord avec ce qu'on peut critiquer du système de formation professionnelle. Dans des déclarations publiques, c'est très rare. C'est vrai. Et donc, je pense que c'est un sujet très, très, très compliqué que de trouver des contreparties. Le pari, c'est, je pense qu'il faut accompagner ce moment de décentralisation, essayer de... S'il y a décentralisation des négociations avec un rôle moins important des conventions de branche, il faut essayer d'accompagner financièrement ce type de décentralisation pour la paix sociale, sachant qu'effectivement il y a beaucoup à perdre dans la gestion des aménités qui sont associées à la à la négociation des conventions collectives de branche. Et le mouvement général ne va pas dans le sens d'un amenuisement de ces avantages. La dernière loi sur les complémentaires santé accentue encore ce phénomène. On s'aperçoit que la tendance générale, tout de même, c'est de ce système, c'est de s'étendre, d'essayer de s'étendre. Vous savez que la loi Sapin a généralisé les complémentaires santé à l'ensemble des salariés, ça se perd dans le cas de conventions de branche en général, avec un débat très, 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 très violent sur ce qu'on appelle les clauses de désignation, c'est le fait que les conventions collectives puissent désigner un prestataire qui, en général, un organisme de prévoyance qui est géré par les partenaires sociaux. L'autorité de la concurrence s'est beaucoup battue contre ces clauses de désignation qui a été quand même introduite dans la loi. Le Conseil constitutionnel les a supprimées, les a cassées. Dans la dernière loi de finances, il y a eu de nouveau, on essaie de refaire passer ces clauses de désignation. Donc vous voyez qu'il y a, un lobbying constant de ces organisations paritaires pour essayer de gagner du terrain. Et donc c'est un combat extrêmement difficile qu'il faudra sûrement soit accompagner, soit écrire clairement dans un programme politique et modifier le lendemain de l'élection. Mais c'est un combat, effectivement, je pense, très, très compliqué à mener pour un homme politique.
Jean-Claude Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire à quel point l'exposé de Pierre Cahuc était lumineux, très, très convaincant sur les différents points qu'il a abordés, et peut-être sur certains points, en tout cas s'agissant de ma propre compréhension, il m'a fait découvrir des choses nouvelles, comme l'intermittence généralisée, qui est un concept que je n'avais pas trouvé, faute d'avoir suffisamment lu avec attention vos propres livres, mais c'est vraiment très frappant. De même, le pourcentage que vous avez évoqué de lycéens japonais qui ont le contact avec l'entreprise est stupéfiant, absolument stupéfiant. Et je n'avais jamais entendu ou lu ça nulle part. De même, vos analyses sur le SMIC sont vraiment très convaincantes. J'ai deux questions. L'une sur le chômage des jeunes, qui a déjà été abordée. Vous avez déjà répondu. Est-ce qu'il est vrai ou pas que, en dépit de toutes les passerelles qui ont été imaginées en France pour court-circuiter le droit commun, le fait que le SMIC de droit commun est censé s'appliquer à tout le monde en France, sauf erreur de ma part, comme c'est le cas d'ailleurs en Belgique, conduit ce que je pense profondément, mais si vous réfutez la thèse, j'en serais ravi, conduit à un niveau de chômage des jeunes non qualifiés absolument encore plus dramatique, disons, que celui qu'on observerait spontanément, et peut expliquer une des caractéristiques françaises franchement dramatiques, qui est que le niveau de délinquance des jeunes non qualifiés est terrible, absolument terrible, et je crois sans grand équivalent dans les autres pays européens. Deuxième question, au-delà des différences dans les environnements structurels que vous avez évoqués, qui sont très frappantes, quelle dimension donneriez-vous dans votre pondération des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation ? Je rejoins Monsieur Bechler, aux aspects culturels, si vous voulez. On a évoqué très rapidement la culture germanique. Effectivement, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, on a à la fois des statistiques bien meilleures et une compréhension du fait que la compétitivité de l'entreprise, quel que soit l'environnement structurel, est quelque chose de très, très important. Et indépendamment des différences de culture entre la culture germanique ou les cultures latines, est-ce que vous pensez qu'on peut donner un peu de crédit à la thèse selon laquelle, en Allemagne, disons pour simplifier, la culture dominante est celle des partenaires sociaux, des entreprises exportatrices, donc, encore une fois, quel que soit leur environnement structurel, très sensible aux phénomènes de compétitivité coût, et au fait qu'effectivement l'entreprise, si elle n'est plus compétitive en termes de coûts et de rapport qualité-prix, peut disparaître, peut provoquer du chômage et certainement empêcher les enfants d'avoir du travail. Alors que la culture française serait plus une culture d'entités non exportatrices qui ont une expérience très différente, les partenaires sociaux ont une expérience très différente, qu'il s'agisse d'ailleurs des patrons ou des ouvriers. Et là, alors, en effet, le souci de la compétitivité est d'une nature complètement différente. Ce peut expliquer que la France avait, à l'époque où il y avait une doctrine de modération salariale et de modération des coûts généralisée dans l'économie, disons du virage de 83 à la création de l'euro, finalement regagnait un peu de compétitivité par rapport à l'Allemagne, année après année, alors que ensuite c'est l'Allemagne qui a regagné de la compétitivité par rapport à nous. Nous n'avions plus, à vrai dire, depuis la création de l'euro, de mot d'ordre central en France de modération générale.
Oui, merci pour vos questions. Sur le chômage des jeunes, oui, je pense que le fait que le salaire minimum s'applique à tous de manière indifférenciée, sachant que donc pour les jeunes, pour les jeunes de moins de 18 ans, il y a une décote donc de 20% pour les jeunes de moins de 17 ans lorsqu'ils ont moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur d'activité et de 10% de 17 à 18 ans dans les mêmes circonstances, ce qui est très marginal, ce qui est de facto très peu appliqué. Donc en France, 25% des jeunes sont rémunérés au salaire minimum, ce qui est trois fois plus élevé que dans les pays qui ont des... Enfin, que le pays qui arrive ensuite dans le classement sur cet indice. Donc, oui, il est indéniable que le salaire minimum est un obstacle à l'insertion des jeunes peu diplômés sur le marché du travail. Une manière d'adapter cette contrainte consiste à jouer sur l'apprentissage, les contrats de professionnalisation qui permettent de rémunérer à un niveau plus faible, sachant que sur l'apprentissage les salaires augmentent rapidement avec l'âge. Il y a aussi peut-être des marges de manœuvre à gagner sur ça, sachant aussi que pour ces jeunes peu qualifiés, une qualification certifiée est essentielle pour trouver un emploi sur le marché du travail. Il faut jouer, je pense, sur ces leviers. Donc, à la fois sur le coût du travail et sur la formation par ce type de dispositif. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui, politiquement, mettre en place un SMIC jeune. C'est très compliqué. Il y a d'autres moyens de le faire de manière beaucoup plus efficace. Sur la culture, oui, vous avez raison, j'irai même plus loin. Je pense qu'en France, la culture est très marquée par le service public, par le secteur public, beaucoup plus que, je pense, cette opposition entreprise exportatrice, non exportatrice, étant donné la faiblesse du taux de syndicalisation dans le secteur privé, dans le secteur marchand. Donc, en France, on a une culture sur le fonctionnement très faible sur la compréhension des mécanismes du fonctionnement des marchés, qui est lié, je pense, à une très forte présence d'acteurs issus du monde syndical dans les médias et qui interviennent sur comme commentateurs de la vie de la vie économique. En France, lorsqu'il y a des débats organisés sur n'importe quel sujet d'économie, il y a constamment deux voix, une voix très marquée politiquement avec une figure anti-marché en tant que concurrence et une autre voix disons différente, mais constamment sur tous les sujets cette voix est toujours présente, ce qui est n'éclaire pas souvent, n'a pas tendance à éclairer les débats sur les points essentiels, et je pense que ça pèse de manière très importante sur la compréhension des mécanismes économiques. On s'en est aperçu encore une fois lorsque nous avons sorti cet ouvrage avec André Zilberberg qui s'intitule Négationnisme économique, combien était prégnante cette culture en France.
Chantal Delsol.
Oh, ma question a été posée par Jean Béchler et François Dorcival, donc j'y renonce. Merci, Monsieur le Président.
Gilbert Guillaume.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi aussi, j'ai été très vivement intéressé par ce qui nous a été dit. Deux questions ponctuelles. Premièrement, vous nous avez dit qu'une réforme fondamentale consisterait à cesser d'étendre les conventions collectives par arrêté ministériel à tout un secteur professionnel. Est-ce que ceci nécessite une modification législative ou réglementaire, ou ne suffit-il pas que les ministres décident de ne pas étendre les conventions collectives, tout simplement ? Ce qui, politiquement, serait peut-être plus facile que de changer les textes. Une première question. Deuxième question, Pôle emploi, vous nous en avez peu parlé. Est-ce parce que vous pensez que ne peut pas jouer un rôle très sensible dans la solution de ces problèmes, et quelles améliorations seraient susceptibles d'être apportées à cette administration?
Merci pour ces deux questions très pertinentes. Donc, sur le premier point, l'article L2261-24 du Code du travail dispose que le ministre du Travail doit étendre les conventions collectives lorsque, effectivement, il a une demande qui est... lorsque les accords ont été négociés dans le cadre de la commission paritaire des conventions collectives. Donc il faut quand même changer le Code du travail, mais c'est un article. Donc voilà. Ceci étant, le ministre peut refuser d'étendre un accord. Alors sur ça, le sujet est assez intéressant, parce que le ministre peut refuser d'étendre un accord pour des raisons d'équilibre d'intérêt général. Et certains accords ne sont pas étendus lorsqu'on considère qu'il y a atteinte à la concurrence. Dans des cas très particuliers. Donc, on peut, lorsqu'il y a atteinte évidente à la concurrence, décider de ne pas étendre l'accord. De manière beaucoup plus générale, un économiste a tendance à penser que tous ces accords sont une atteinte à la concurrence. Donc, tout ça est question d'appréciation. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait un changement législatif, hein, bien que n'étant pas juriste, mais apparemment, il faut changer le Code du travail sur un article, un point. Sur votre deuxième question, sur Pôle emploi, oui. Alors, Pôle emploi, c'est une institution qui grossit par son nombre de salariés, qui a maintenant qui est une institution relativement jeune, puisqu'elle date de la fusion de l'UNEDIC et de la NPE, qui a été réalisée en 2008-2009. Qui a maintenant 55 000 salariés. Donc le nombre de salariés a accru d'à peu près 10% sur ces 5 dernières années. Et donc qui est une institution très difficile à diriger, parce que nombreux salariés, très aussi, dans lesquels les syndicats jouent un rôle très important, donc très difficile à gouverner. Ma vision sur le sujet, que nous avions essayé de développer avec Francis Cramars dans le rapport que nous avions réalisé en 2004, qui d'ailleurs préconisait la fusion à l'époque de l'UNEDIC et de la NPE, mais pas selon la manière dont cela a été fait. La logique d'ensemble consistait à créer un service public dont l'objet soit de sélectionner les demandeurs d'emploi selon leur profil et de les adresser à des opérateurs externes qui seraient gérés via une procédure d'appel d'offres systématisée par Pôle emploi. C'est ce qui a été fait marginalement, mais Pôle emploi... Donc, l'avantage de ceci, c'est que ça permet d'appuyer sur des opérateurs externes dont les effectifs peuvent évoluer au fur et à mesure de l'évolution du chômage. Nous avons des expériences internationales, enfin, de pays étrangers, notamment l'Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, qui ont mis en œuvre ces dispositifs. L'Australie avec beaucoup de réussite, notamment dans lesquels les demandeurs d'emploi peuvent décider d'aller voir tel ou tel opérateur avec un système de bons. Enfin, tout ça semble bien fonctionner. Et ce n'est pas la stratégie qui a été choisie par Pôle emploi. La stratégie qui a été choisie par Pôle emploi consiste à effectivement développer beaucoup en interne, en développant l'accompagnement notamment sur les chômeurs les plus éloignés de l'emploi. Donc je pense qu'une autre stratégie aurait été préférable, à la fois à court terme et à long terme, parce que si jamais le chômage baisse en France, nous risquons d'avoir un service public de l'emploi pléthorique par rapport au nombre de demandeurs d'emploi, ce qui est loin d'être le cas actuellement, puisque le nombre de conseillers est insuffisant. Puisqu'il y a à peu près un conseiller pour 150 000 chômeurs. Pardon, pour 150 chômeurs, pas 150 000, 150 chômeurs.
J'avais deux dernières questions, si vous le permettez. La première tient à ma surprise de, d'une réalité dans laquelle tous les gouvernements de la République qui se sont succédés sont partis avec un objectif qui était de réduire le chômage et que vous nous avez démontré que c'était possible à la fois par l'expérience des pays voisins ou même des pays lointains. Vous avez cité, en dehors de du Royaume-Uni et de l'Allemagne, les pays scandinaves, le Portugal, enfin, tout le monde y est passé, finalement. La Suisse, laissons de côté, si vous le voulez, la Grèce et l'Italie, qui n'ont pas encore réglé cette question. Mais, donc, comment se fait-il que, alors que un président de la République même a dit « contre le chômage, on a tout essayé, rien ne marche », nous soyons toujours dans la situation de rechercher une solution. Ma première question, c'est pourquoi cherche-t-on assez systématiquement une solution au problème dont vous avez indiqué qu'il n'existait pas, c'est-à-dire le problème du chômage conjoncturel qui est passible de solutions dites keynésiennes, alors que vous avez développé, me semble-t-il, l'idée que notre chômage était structurel et donc que ces solutions étaient particulièrement inadaptées. Ma deuxième question est relative à plus profondément, si je puis dire, pourquoi sommes-nous là ? J'ai tendance à imaginer qu'une partie de la réponse se trouve dans le fait que notre pays a souvent tendance, quand un problème économique se pose à lui, à le traiter par la voie du malthusianisme, avez-vous dit, je dirais du rationnement. Lorsque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un problème d'alimentation se posait, on avait inventé des tickets de rationnement pour répartir la nourriture entre les Français. Ils ont permis un développement massif du marché noir et la pénurie a disparu dès que les tickets ont été supprimés. Au lendemain de la guerre, on connaissait une inflation relativement forte et donc on a pensé traiter le problème de l'inflation par des tickets de rationnement de hausse des prix. Tous les agents économiques étaient autorisés à des hausses de prix dont l'addition était de nature à permettre de contrôler l'inflation. On a eu un peu plus tard à traiter la question du contrôle de la masse monétaire. Et à ce moment-là, on a inventé un système qu'on a appelé l'encadrement du crédit qui visait à répartir par des tickets de rationnement les crédits distribués par les banques pour qu'ils ne fabriquent pas trop de monnaie. Je pourrais ajouter le contrôle des changes qui avait été inventé pour limiter, là encore par des tickets de rationnement, l'utilisation de devises étrangères par les Français. À un moment, Jacques Delors avait même inventé un livret d'échange pour que tous les Français aient leur petite capacité d'achat de devises étrangères. Comme pour le rationnement de la guerre, l'inflation a disparu dès que le contrôle des prix a été supprimé. La masse monétaire a été contrôlée dès qu'on a supprimé l'encadrement du crédit. Et le contrôle d'échange, en disparaissant, a permis à la France de retrouver un équilibre extérieur. Alors, le seul domaine dans lequel le rationnement et les tickets de rationnement existent toujours, et comme vous l'avez montré, l'emploi, on a pensé qu'on allait pouvoir régler le problème de l'emploi en rationnant le temps de travail de chacun des Français par l'intermédiaire de méthodes plus ou moins ingénieuses, démarrant avec les stages des jeunes en dehors du travail, l'avancée de l'âge de la retraite pour supprimer aux deux extrémités quelques travailleurs, et puis ensuite en restreignant le temps hebdomadaire de travail ou la durée annuelle de travail avec le nombre de semaines de congés payés. Est-ce que l'abandon de l'idée du rationnement est la solution au problème de l'emploi ? Et plus généralement, compte tenu du caractère très convaincant de votre démonstration, ne peut-on pas être étonné qu'elle ne soit pas plus fréquemment présentée par les économistes français pour régler le problème du chômage en France, puisque à chaque élection, on leur demande de fournir des solutions. Est-ce que ceci a un rapport quelconque avec l'idée du négationnisme économique dont vous avez récemment parlé ?
Merci pour ces nombreuses questions et remarques. Il est difficile d'avoir une réponse définitive au fait de savoir pourquoi nous n'avons pas été capables de réformer pendant de longues années. L'élément de réponse que j'aurais envie d'avancer, que j'ai déjà abordé, je pense qu'elle est très liée à cette imbrication entre deux mondes, le monde politique et le monde du paritarisme. Comme j'ai indiqué, donc la France est marquée depuis l'après-guerre par ce système paritaire qui a donné le monopole de la gestion de services d'intérêt général dans des conditions de transparence très faibles à des organisations représentatives côté employeur qui façonne les carrières des hommes politiques je pense que la France est marquée par des carrières politiques longues, avec un phénomène de cumul des mandats dans le temps, de cumul des mandats dans l'espace. Et je pense que l'ensemble de systèmes n'aide pas à mettre en place des réformes de manière efficace. Hein. Une très belle illustration de ceci, je pense que c'est la politique qui a été mise en œuvre par François Hollande depuis 2012. Je pense que quand François Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, le pari politique le meilleur consistait à ne pas changer grand-chose parce que la probabilité que le cycle se retourne avant 2017 était très élevée au regard des évolutions historiques passées. Sachant que le coût de réalisation de réformes importantes, le coût politique en termes de réélection était sûrement très élevé. L'exemple de Schröder en Allemagne, je pense, était un repère pour un homme politique à ce moment. Il est vrai que le monde le monde du travail en France est violent. On l'a vu lors des réformes du printemps dernier. On est toujours à la limite de catastrophe. Et je pense que pour un homme politique, ce sont des situations qui sont très difficiles à assumer. La France est violente en ce qui concerne les réformes qui sont liées au marché du travail. Je crois que c'est très lié à l'importance, effectivement, de ce système associé sur ce paritarisme qui donne des rentes assez importantes dans des situations historiquement avec assez peu de transparence. On a développé un système qui fonctionne malheureusement mal, dont on paye aujourd'hui le coût. Il y a des réformes qui ont été mises en œuvre, qui sont très progressives, qui changent la physionomie de ce système de manière progressive. Mais mon constat, si vous voulez, c'est que cette difficulté à réformer, elle tient beaucoup à ce système qu'on a mis en place après-guerre, monopole de services publics, qui gère des milliards d'euros dans des circonstances qui sont insuffisamment encadrées, si je puis dire. C'est pour ça que j'avais insisté sur ces problèmes de décentralisation, etc. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, et je pense que l'erreur de François Hollande, en l'occurrence en 2012, ça a été de ne pas, et de Nicolas Sarkozy lorsqu'il arrive au pouvoir en 2007, de ne pas agir sur ce levier. C'est pas évident de l'anticiper à l'époque. On aurait pu penser que la logique Larcher allait réussir, mais ça n'a pas été le cas. A posteriori, quand on regarde effectivement la manière dont fonctionne ce système, ce n'est pas très étonnant au regard de ce qu'on peut voir sur la réussite de systèmes qui fonctionnent avec peu de transparence dans les pays étrangers. En ce qui concerne maintenant le maltunianisme et le rationnement, cette logique qui nous gouverne, elle est assez cohérente avec cette idée selon laquelle on vit dans un monde dans lequel on distribue un peu des rentes. Hein. Il y a des salariés protégés qui ont des emplois qui sont protégés, et puis on essaie de se partager ces emplois. Et donc ça conduit à une mécanisme de rente. Je pense que Une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire le grand saut, c'est qu'en France, il y a une très mauvaise compréhension, une très grande défiance pour les mécanismes de marché. Les marchés doivent être encadrés, c'est clair. Un marché, ça ne fonctionne pas. Pour qu'un marché fonctionne bien, il doit être encadré par des règles de concurrence précises. Mais même ceci est très peu compris par les Français. Il y a une défiance généralisée pour le marché. On croit que le marché, ça ne fonctionne pas. Vous avez parlé de rationnement. Un rationnement récent, c'est le blocage des loyers, qui est aussi un des derniers exemples, qui n'a pas été remis en question d'ailleurs lorsque le ministre qui avait fait voter cette loi est parti du gouvernement, même s'il y avait une certaine suspicion sur l'efficacité de cette politique. Donc je pense que là, il y a beaucoup de pédagogie à faire et il y a des places à prendre. Et effectivement, c'est lié à cet ouvrage que nous avons écrit sur négationnisme économique. Je pense qu'il y a une pédagogie à faire d'expliquer le fait que, dans certaines circonstances, les marchés sont des moyens d'allouer des ressources efficaces. Il doit être encadré que ceci est un moyen d'améliorer profondément, enfin significativement, le fonctionnement de l'économie. Aujourd'hui, les économistes font de plus en plus d'expériences qui illustrent, je pense, de manière très convaincante ce type de phénomène, comme beaucoup d'autres, parce que nous disposons de données de plus en plus riches. Il faut essayer, de montrer aux citoyens français comment fonctionnent ces expériences, un peu pour leur montrer la Terre est ronde et que, dans certains cas, eh bien, les marchés sont utiles pour fonctionner. Donc c'est à ce travail qu'on essaie de participer avec André Zilberberg et avec d'autres co-auteurs. C'est sûrement un travail de longue haleine, tant de l'autre côté, les voix sont fortes pour dénier la pertinence de ce type de démonstration.